Bonjour à tous. Donc, nous allons maintenant aborder la deuxième partie du cours sur la question du mal et du péché, qui sera consacrée à Saint Augustin. Alors, la dernière fois, on en était resté à l'idée que c'est précisément parce que l'homme avait été créé libre qu'il avait été créé, selon l'expression de Sesbué, une structure de faillibilité, c'est-à-dire qu'il pouvait autant faire un bon usage de cette liberté en s'ordonnant à Dieu et à la création, mais aussi il pouvait en mésuser et fauter, pécher, chuter. Voilà. Donc, étant donné qu'Augustin a vraiment marqué la tradition occidentale par son idée de péché et de grâce, hein, la tradition l'appelle le docteur de la grâce, on va essayer de voir un peu ce qu'il en dit. Donc j'en suis au petit 2 de mon grand 3, liberté et péché. L'explication augustinienne ou la focalisation occidentale sur le péché originel. Alors Saint Paul et à sa suite Augustin sont ceux qui ont thématisé et légué à la postérité la notion de péché originel, ou l'autre expression, c'est péché des origines. Bien sûr, ils ne le pensent jamais, sans lien avec le salut apporté par le Christ. D'où une forme d'optimiste qui fait dire à saint Augustin, à la suite de son maître saint Ambroise, « Heureuse faute qui nous a fallu un tel rédempteur ». Donc il y a une sorte de logique là-dedans. C'est-à-dire que l'heureuse faute, ou la felix culpa en latin, la faute a été heureuse parce que grâce à cela, on a eu le Christ, son incarnation et sa passion. C'est une optique, ce n'est pas l'optique de toutes les interprétations chrétiennes, dans la mesure où certains, notamment en Orient, affirment que le Christ se serait incarné quand bien même il n'y aurait pas eu le péché. Donc ce n'est qu'une option qui est celle d'Augustin. Alors, à la suite de Paul, il y a un parallèle antinomique entre deux personnes situées à deux extrêmes opposés. Adam, qui par le péché est entré dans le monde, et le Christ, nouvel Adam, qui par le péché a enlevé du monde, a enlevé le péché du monde par le sacrifice de la croix. Donc d'un côté la faute, de l'autre la grâce. D'un côté le vieil homme, de l'autre l'homme nouveau. Au salut universel apporté par le Christ répond l'universalité de la faute contenue en Adam, et donc en tout homme. Puisque l'Adam pécheur contient en lui tous les hommes pécheurs, c'est-à-dire tous les hommes qui, dès qu'ils naissent, sont marqués par le péché des origines. Ce péché originel marque définitivement la liberté à sa racine, à savoir ce n'est pas le libre arbitre ou la capacité de discernement et de choix entre le bien et le mal qui est affectée, mais la mise en pratique par la liberté. Oui, j'en étais restée là la dernière fois, mais c'est pas grave. Médée, sous la plume d'Ovide, dit bien « Je vois le bien, je l'approuve et je fais le mal ». Et saint Paul, dans l'Épître aux Romains, « Je ne fais pas le bien que je veux, tandis que je fais le mal que je ne veux pas ». Donc, c'est ce qu'on appelle en philosophie la faiblesse de la volonté, ou l'acrasie, que Aristote a particulièrement thématisé, tout en n'ayant pas du tout l'idée de péché originel, hein, c'est une idée chrétienne et non pas grecque, contre Socrate et la thèse du Protagoras qui disait « Nul n'est méchant volontairement », c'est-à-dire « Si je vois le bien et si je sais que c'est bien, je n'ai pas de sorte d'hésitation et je fais de façon spontanée le bien que je vois. » C'est-à-dire il n'y aurait pas de faiblesse de la volonté. Si je vois le bien, alors je suis capable de le faire immédiatement. Ce n'est pas du tout une idée ni aristotélicienne ni augustinienne. Pourquoi ? Parce que le mal vient précisément de la volonté. Donc petit a, provenance du mal, la volonté. Alors là, je vous ai mis quelques extraits tirés de certains textes d'Augustin. Dans le De Libero Arbitrio, il dit « Rien n'est si pleinement en notre pouvoir que la volonté même, car sans délai aucun, dès que nous le voulons, elle est à notre disposition. » Ou encore, la seule chose qui fasse de l'esprit l'associé du désir, c'est la volonté propre et le libre arbitre. Un autre texte, dans le Contra Fortunatum, « Je déclare qu'il n'y a point de péché à moins qu'on ne pêche par une volonté propre et que le mérite vient de ce que nous faisons le bien par notre propre volonté. » Ou encore, dans le De Libero Arbitrio, « Ni le péché ni l'action droite ne peuvent être imputés justement à celui qui n'a rien fait par sa volonté propre. Donc le péché et l'acte droit est dans le libre arbitre de la volonté. » La volonté est pour Augustin le pouvoir de résister ou de céder au désir mauvais. Nous sommes tous exposés au désir, à la tentation, à une sorte de faiblesse constitutive, mais notre volonté garde toujours la capacité d'y céder ou d'y résister. Et la culpabilité vient du fait que nous leur cédons, c'est-à-dire que nous n'avons pas assez de force dans notre volonté pour ne pas céder au désir. Ou en d'autres termes, qui seront les termes de Thomas d'Aquin, c'est lorsque les parties inférieures de l'âme, les passions, les désirs, la sensibilité, prennent le pas sur les parties supérieures, à savoir l'intelligence et la volonté. Bref, c'est lorsque je vois que tel objet que je désire n'est pas bon ni pour moi ni en soi, je le sais et pourtant je ne résiste pas à mon appétit et j'agis, c'est-à-dire que je cède à ma convoitise. Alors que la volonté, c'est précisément ce qui est en notre pouvoir, c'est-à-dire que rien ne peut la contraindre à vouloir. Lorsqu'elle cède aux passions et aux désirs, c'est de son propre ressort, de sa propre faute. Passions et désirs ne constituent pas des excuses. Le consentement ou la résistance à la passion est un acte du vouloir. Par là, notre action est soit méritante, soit non méritante. L'origine du mal se trouve donc dans l'acte de vouloir, l'acte d'assentiment à l'inclination mauvaise ou à la passion. La faute relève de l'homme, créé bon par Dieu, ainsi que la nature entière. Augustin, comme tant d'autres, entend innocenter Dieu du mal et montrer que seul l'homme est responsable. Je vais vous lire un long texte tiré du De Libero Arbitrio qui nous explique un peu ça. Si donc, parmi les biens corporels, il s'en trouve dont l'homme peut abuser, sans que nous disions pour cela qu'il n'aurait pas dû nous être donné, puisque nous les reconnaissons pour des biens, quoi d'étonnant si dans l'âme il y a également certains biens dont nous pouvons de même abuser, mais qui, étant des biens, n'ont pu être donnés que par celui de qui viennent tous les biens. Tu vois, en effet, quelle privation c'est pour le corps de ne pas avoir de main. Et pourtant, on abuse de ses mains par des actions cruelles ou honteuses. Si tu voyais une personne sans pied, tu avouerais qu'il manque à l'intégrité de son corps un très grand bien. Et pourtant, celui qui se servirait de ses pieds pour nuire au prochain, ou se déshonorerait soi-même, userait mal de ses pieds. Le nieras-tu ? Par les yeux, nous voyons cette lumière et nous distinguons des formes corporelles, et c'est un élément de grande beauté pour notre corps. Aussi, est-ce comme au sommet, eu égard à leur dignité, que ces membres sont logés. Leur usage contribue à la sauvegarde de l'homme et apporte à la vie beaucoup d'autres avantages. Et cependant, beaucoup se servent des yeux pour un grand nombre d'actes honteux et les obligent à servir leur passion. Or, tu vois quel grand bien manque au visage quand lui manquent les yeux. Mais s'il les a, qui les lui a donnés, sinon Dieu, le dispensateur de tous les biens ? De même donc, que tu approuves la présence de ces biens dans le corps et que, sans considérer ceux qui en abusent, tu en loues le donateur, de même pour la volonté libre, sans laquelle personne ne peut bien vivre, tu dois reconnaître et qu'elle est un bien et qu'elle est un don de Dieu et qu'il faut condamner ceux qui abusent de ce bien au lieu de dire du donateur qui n'aurait pas dû le donner. Alors Augustin défend la thèse suivante, le mal et le péché viennent du libre arbitre de la volonté et non de la nature créée par Dieu. Le texte en réalité défend plusieurs thèses. Contre les manichéens qui substantifient le mal, c'est-à-dire qui font du mal quelque chose de réel, qui font du mal un être, Augustin défend l'idée que le mal n'est rien, que c'est une absence, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'être. Il est pure privation de l'être. En effet, l'être créé par Dieu est bon et le mal n'est pas une créature de Dieu. Ce qui est rien ne peut être créé. Donc tout ce qui relève de la seule création de Dieu est bon. Il doit donc provenir, le mal, de notre propre volonté. Le mal est d'abord une privation. L'exemple qui vous donne des mains, des yeux, des pieds, etc., hein, est une privation pour le corps, et cette privation est un mal naturel qui se comprend relativement à la possession légitime de ses organes. Augustin expliquera ces mots en les resituant dans leur global de la création. C'est-à-dire qu'il dira que ce qui est difficilement défendable, c'est-à-dire que ces mots particuliers sont faits pour le plus grand bien de la création. Vous comprenez pourquoi c'est un peu, beaucoup, même peu justifiable pour celui qui souffre. Deuxièmement, le mal, cette fois-ci, entendu au sens de péché ou de mal moral, et non plus de mal naturel, n'est pas institué par Dieu, mais résulte du libre usage de la volonté de l'homme. Doué par nature d'une volonté libre, l'homme se détourne librement du bien en choisissant librement ses décisions. Les choses créées ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. C'est l'usage que nous en faisons qui est mauvais. L'homme peut donc choisir librement le vice et se rendre esclave des passions. Dieu nous a donc donné une volonté capable de faire le bien, et en même temps, c'est cette même volonté qui est la condition de notre béatitude. Tout le problème réside en son usage. L'usage du libre arbitre est à la disposition du libre arbitre lui-même. Alors, petit b, la théorisation du péché originel. Je vous lis un texte du De Natura et Gratia. Certes, à l'origine, la nature humaine a été créée sans péché et sans tare. Mais cette nature, par notre naissance, rattache Adam à chacun de nous, a désormais besoin d'un médecin, car elle n'est plus saine. Manifestement, tous les biens qu'elle doit à sa constitution, à sa vie, à ses sens, à son intelligence, elle les tient du Dieu, son créateur et son artisan. Par contre, le vice qui assombrit et blesse ses biens naturels au point de nécessiter lumière et traitement ne provient pas de l'irréprochable artisan, mais du péché originel commis par le libre arbitre. Par suite, la nature assujettie à la peine encourt le plus juste des châtiments. Car si désormais nous sommes dans le Christ une nouvelle créature, nous étions cependant par nature enfants de la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a fait revivre avec le Christ, dont la grâce nous a sauvés. C'est une citation de saint Paul, l'Épître aux Éphésiens 2, 3, 5. Or, donc, cette grâce du Christ sans laquelle ni les enfants ni les adultes ne peuvent être sauvés ne revient point à nos mérites, mais nous est accordée gratuitement. C'est pourquoi elle est appelée grâce. Ils sont justifiés, dit l'apôtre, par le don gratuit de son sang. Par suite, ceux que la grâce n'a pas libérés, soit parce qu'ils n'ont pas encore pu en entendre parler jusqu'ici, soit parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre, soit aussi parce que, vu leur âge, ils étaient incapables de saisir les paroles et n'ont pas reçu le bain de la régénération qu'ils étaient en mesure de recevoir et qui les eût sauvés, ceux-là sont, à coup sûr, condamnés à juste titre. En effet, ils ne sont pas exempts de péché, qu'il s'agisse de celui qu'ils ont contracté dès leur naissance ou de celui qu'ils ont ajouté par leur mauvaise conduite. Car tous ont péché, soit en Adam, soit en eux-mêmes, et se sont privés de la gloire de Dieu. Par conséquent, la masse humaine tout entière est vouée au châtiment, et, si le supplice de la damnation dont tous sont redevables leur était en retour infligé, il ne leur serait manifestement pas infligé sans justice. C'est pourquoi ceux qui sont libérés par la grâce ne sont pas dénommés vases de mérite personnel, mais vases de miséricorde. Or, de la miséricorde de qui, sinon de celui qui a envoyé le Christ Jésus dans ce monde pour glorifier, pour sauver les pécheurs, ceux qu'il a connus d'avance et prédestinés, appelés, justifiés et glorifiés. Qui donc serait assez fou pour ne pas rendre d'ineffables actions de grâce à la miséricorde de Dieu, libérant ce qu'il veut, d'autant qu'on ne pourrait d'aucune manière reprocher à sa justice de condamner absolument tous les hommes ensemble. D'où vient que la volonté est optée pour le péché ? Tout bien vient de Dieu et la création est bonne. La nature primitive, natura instituta, est bonne. Elle a été créée par Dieu avec le libre arbitre, donc avec la possibilité de faire le mal et de se détourner du bien. Pourquoi alors Dieu a-t-il créé l'homme doué de libre arbitre, sachant que c'est par là qu'il pouvait introduire le mal dans la création? La réponse d'Augustin est la suivante. Nous n'en savons rien. Dieu a créé la volonté libre, c'est-à-dire maîtresse d'elle-même et cause unique de ses actes. Il a donc créé un homme qui, s'il pouvait se détacher de Dieu, n'était pas obligé de s'en détacher. Voyez la nuance, hein ? C'est-à-dire que le péché était une possibilité, mais non pas une nécessité. Et le péché vient de la liberté. Et pourquoi la question qu'on se pose tous, c'est-à-dire pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme en sachant le drame qui allait s'en suivre, c'est-à-dire le drame du péché, et bien Augustin n'a que cette réponse à nous donner. Nous n'en savons rien. Hein. Les voies du Seigneur sont impénétrables. La volonté pouvait se détourner de Dieu, mais elle ne le devait pas. La chute n'a pas été la chute naturelle et nécessaire d'une pierre qui tombe, mais une chute libre et volontaire. Le mouvement originel de la faute est une déficience de la volonté, un manque de sa part. Créée de rien et donc imparfaite, la volonté n'a eu qu'à se laisser détourner du Créateur pour introduire dans l'univers du désordre. Vous voyez, il y a cette idée que la volonté humaine n'est pas la volonté divine, c'est-à-dire qu'elle a été créée imparfaite, c'est-à-dire capable de pécher. Résultat, le mal, c'est d'abord le désordre, la rupture du lien qui unissait le Créateur avec la créature. L'homme, au lieu de préférer Dieu, s'est préféré lui-même. L'origine du mal, c'est l'orgueil. L'orgueil d'être à soi-même sa propre lumière, le refus de rester tourné vers la vraie lumière. La nature actuelle, notre nature, est donc viciée par le péché. C'est une nature vicieuse et viciée qui s'est donc substituée à une nature bonne. Néanmoins, le péché n'a pas complètement détruit la nature première qui reste capable de connaître le vrai et de commettre le bien. L'homme conserve son libre arbitre en ce que nous gardons la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Néanmoins, nous avons perdu la liberté, à savoir pour Augustin, le pouvoir de ne pas pécher. Vous voyez, il y a une distinction à faire entre libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de choix et la liberté qui est considérée comme, par Augustin comme un pouvoir de ne pas pécher. La liberté, ce serait d'être débarrassé de cette capacité que nous avons au péché. Pour cela, dans notre état actuel, il faut le secours de la grâce, c'est-à-dire l'intervention gratuite et surnaturelle de Dieu qui vient au secours de notre nature, désormais incapable de faire le bien par elle-même, À savoir que la grâce, c'est ce qui vient soutenir notre libre arbitre dans sa capacité de choisir et notre liberté dans son action. Sans la grâce, on ne peut pas ne pas pécher. Par contre, à l'aide de la grâce, nous pouvons être fortifiés dans nos choix bons et dans nos actes bons. Alors, avec cette idée qui sera reprise par Luther, à savoir que ce ne sont pas nos actions qui nous rendent dignes de Dieu, puisque nos actions ne sont le résultat finalement que de la grâce divine. C'est parce que nous avons la grâce que nous sommes capables d'actes bons. Et non pas le contraire, c'est pas par nos actes bons que nous méritons la grâce. La grâce a été donnée gratuitement, c'est-à-dire sans aucun mérite de notre part. Cette position d'Augustin doit être aussi resituée dans la controverse avec Pélage, pour qui le péché est le mauvais usage du libre arbitre. Pour Pélage, le péché n'a diminué en l'homme ni sa bonté naturelle, ni son pouvoir de faire le bien. Pour Pélage, la volonté, comme capacité de faire, n'étant pas corrompue, l'homme garde la possibilité de choisir le bien et de le faire. Pour Augustin, au contraire, si par mon libre arbitre je suis capable de choisir le bien, ma volonté est défaillante et n'est plus capable de mettre en œuvre le bien que j'ai choisi. Il faut, je vous le disais, l'intervention de la grâce qui rend le libre arbitre efficace. La grâce confère à la volonté soit la force de vouloir le bien et de préférer le bien réel aux biens apparents, soit la force d'accomplir ce que l'on sait être le bien. La grâce, finalement, restitue la nature perdue en rendant au libre arbitre sa liberté, à savoir le pouvoir de bien agir. Plusieurs thèses fortes sont défendues par Augustin et elles vont perdurer dans toute la philosophie et la théologie occidentale, jusqu'à l'heure actuelle. Le mal est néant, il est privation d'être, puisque tout être est créé par Dieu. Or Dieu n'a pas créé le mal, mais l'homme est doué de la possibilité de le faire. Cette thèse est à resituer dans le contexte d'une hérésie contre laquelle se battait Augustin, à savoir l'hérésie manichéenne qui faisait du mal un principe à côté du bien. Donc il y avait deux principes antinomiques qui se partageaient le monde, pour parler rapidement, qui étaient d'un côté le bien, de l'autre côté le mal, et qui faisaient donc du bien quelque chose du mal quelque chose de réel, alors que le mal est privation. Et pour vous le dire assez rapidement, pour vous donner un petit horizon supplémentaire, il va falloir attendre le XXe siècle pour réfléchir à l'idée, d'une volonté perverse, mauvaise en elle-même, et de la réalité du mal. On en parlera lors des Zooms si vous le souhaitez. Deuxième thèse d'Augustin. Le libre arbitre reste inefficace sans l'intervention gratuite de Dieu qui donne sa grâce. Contre Pélage, affirmant que le pouvoir de bien agir est resté intact en l'homme, Augustin montre que, laissé à lui-même, l'homme est incapable de rendre ses choix efficaces. La grâce est gratuite, donnée en dehors des mérites. Je vous le disais tout à l'heure, nos actions ne sauraient forcer Dieu à nous donner la grâce. La grâce est donnée gratuitement, indépendamment de nos actes justes. C'est une idée qui sera fortement reprise par Luther. La grâce est le don du Christ mort pour nos péchés. En affirmant que la nature est restée intacte et capable du bien, Pélage rend la passion du Christ vaine. Et c'est la raison pour laquelle Augustin défend des thèses, les thèses que je viens de vous exposer. Troisièmement, la faute n'est pas d'origine personnelle, mais elle a une origine commune. Elle relève du premier homme, Adam. Dans cet Adam, nous sommes tous contenus. C'est-à-dire, dans la faute d'Adam, tout le monde a péché, à un point tel que les petits-enfants nés et morts sans avoir reçu le baptême vont en enfer. C'est ce qu'il dit, ceux qui n'ont pas reçu le bain de la régénération sont voués à l'enfer. Alors, cette idée va quand même changer à travers les âges, Dieu merci. Les médiévaux, eux, inventeront un autre lieu, moins terrible, les limbes, qui sont situés aux frontières de l'enfer. Et puis, la Commission théologique internationale de 2007 a totalement balayé cette idée et rétabli l'innocence de l'enfant mort-né. Cela va de pair avec l'insistance mise depuis Vatican II sur le péché originant plus que sur le péché originel, c'est-à-dire le péché dont moi, en tant que personne, je suis adulte et qui est de mon fait, plus que sur une tare héréditaire qui viendrait d'Adam. Et dernier point ensuite, il ne faut pas oublier que l'anthropologie augustinienne trouve son achèvement dans la grâce à la fois médicinale et salvifique. La grâce que le Christ apporte par sa naissance et la mort sur la croix nous guérit du péché et nous sauve. Donc l'horizon de tout cela, c'est le salut. Faut pas l'oublier, sinon on est complètement déprimé et dépressif et même pessimiste. L'anthropologie augustinienne a, il faut l'avouer, c'est mon avis, mais on en discutera, marqué et grevé l'anthropologie occidentale. Les attaques contre le christianisme de la part d'un Nietzsche, par exemple, sont celles d'un christianisme marqué par un pessimisme anthropologique provenant d'Augustin. Et je vous le répète, s'il a été appelé docteur de la grâce, c'est parce qu'il est aussi le docteur du péché. En Orient, les chrétiens insistent moins sur le Christ rédempteur, même s'ils reconnaissent la nature pécamineuse de l'homme, que sur le Christ voie d'un accomplissement dans la divinisation. Dieu a voulu que nous connaissions sa gloire et que nous nous unissions à lui. Cet aspect est néanmoins développé par certains mystiques, et j'y reviendrai dans un prochain chapitre, parce que c'est vraiment extrêmement intéressant. Nous l'examinerons donc tant la juste compréhension de l'amour de Dieu pour les hommes est un don qui nous permet d'accomplir en nous le projet que Dieu a fait pour nous, à savoir nous rendre participants de sa vie divine. En conclusion, je dirais que le péché originel est l'explication judéo-chrétienne donnée à un fait irréductible à toute élaboration rationnelle, la présence, l'existence du mal en nous et en dehors de nous. Et je vais vous laisser goûter ce magnifique texte de Pascal qui dit « Certainement, rien ne nous heurte plus rudement que cette doctrine, Et cependant, sans ce mystère, le plus incompréhensible de tous, nous sommes incompréhensibles à nous-mêmes. Le nœud de notre condition prend ses replis et ses tours dans cet abîme, de sorte que l'homme est plus inconcevable sans ce mystère que ce mystère n'est inconcevable à l'homme. La doctrine d'une hérédité du péché est insoutenable. Au nom de quoi naîtrais-je déjà maculé du péché d'Adam? Mais il a le mérite d'expliquer les contradictions, les tensions, les horreurs de l'histoire. Ici encore, ce n'est pas la poursuite d'une investigation rationnelle ou théologique qui peut nous donner des réponses. Le saut à effectuer est celui de la foi en Jésus-Christ, en sa passion qui est don d'amour pour l'humanité et donc pour moi. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt lors des Zooms.